été fortement inspiré des expériences libertaires et des propositions libertaires en éducation, notamment de certaines écoles concrètes aux États-Unis, puis aussi c'est aussi des principes anti-autoritaires où tu essaies d'apprendre aux enfants d'un côté une certaine base, mais de l'autre côté, en te disant que l'enfant peut arriver à la connaissance lorsqu'il sera porté lui-même par ses questionnements vers tel problème. T'sais. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais oui, c'est de l'éducation anti-autoritaire qui vise à donner aux enfants là, une capacité d'avoir une réflexion autonome.
Puis ça, excuse-moi, parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est, vous faites ça, des tournées dans les quartiers, puis là, vous faites comme une garderie, ou c'est un projet que vous voulez implanter dans un local qui va être celui du centre social autogéré?
Oui. Ben, comme je te dis, il y a deux affaires. Il y a l'éducation populaire, les ateliers se font à peu près tout au même endroit, ça c'est une chose, mais l'école libre, les gens qui portent ce projet-là, ce que je sais, c'est qu'ils avaient effectivement l'intention d'avoir un petit local. Et en fait, c'est permis par la loi, peuvent être retirés de l'école hein, avec certaines permissions, mais en tout cas, c'est pas compliqué, c'est pas ça l'enjeu. Donc, il y avait vraiment l'idée d'implanter un endroit physique où il y aurait des activités qui pourraient se tenir. Parce que l'école libre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi quand tu veux. C'est plutôt apprendre autrement. T'sais.
Est-ce que ça fait un peu le tour des différents comités du centre social?
Bon, il y en a sûrement d'autres. Là. J'en oublie. Là.
Mais pour articuler toutes ces initiatives-là, vous êtes environ combien de participants-participantes?
C'est assez variable. C'est ça qui est intéressant aussi, le centre social, parce que ça offre à des personnes qui ont peut-être un projet ou déjà quelque chose de commencé de venir le faire chez nous. Donc, c'est par exemple l'école libre qui s'est un peu joint à nous comme ça, alors que l'idée du centre social était lancée. Combien de personnes? Je ne sais pas, je peux pas dire. On a fait un événement qui était le lancement du centre social. Au mois de juin, le 6, 7, 8 juin, 3 jours de fin de semaine, on a estimé avoir servi plus que 500 repas dans la fin de semaine. Il y a probablement 400 personnes différentes qui sont venues. Mais concrètement, dans l'organisation, là, à tous les jours, là, du centre social, il y a au moins 30 personnes, là, minimum qui tournent autour, là.
On peut voir qu'il y a quand même une très bonne réception des gens en général du quartier. C'est quoi la dynamique qui s'est installée? Y a-t-il une complicité qui approche? Ou?
Ben, je dirais qu'effectivement, on est bien reçus. On fait des choses intéressantes. Les gens du quartier viennent à nos activités. Les groupes communautaires autour de nous nous regardent d'un bon œil. Bon, c'est sûr que c'est pas toute la population de Pointe-Saint-Charles qui connaît le centre social. Puis d'un autre côté, c'est aussi un projet qui s'adresse à des gens qui sont inscrits dans une culture alternative ou une culture politique, bon, tout ça. Mais grosso modo, on a une très bonne réception du quartier et on commence à être considéré comme un interlocuteur qui existe et qui fait des choses intéressantes. Comme je disais tantôt, il y a des groupes communautaires qui nous prêtent des locaux, comme on n'a pas de bâtiment, donc ils nous prêtent des locaux gratuitement.
Ouais.
Il y a une entreprise d'insertion sociale là, qui va nous faire du travail gratuitement pour notre projet vélo. On a des partenariats ou du prêt de matériel ou du prêt de ressources avec 7 ou 8 organisations du quartier. T'sais. Donc, on commence à être bien implanté, mais on garde, puis ça c'est un autre enjeu pour des anarchistes qui essaient de travailler dans une perspective communautaire, on essaie de garder notre ligne politique et nos objectifs. Donc, on ne dévie pas de ça, on fait certains partenariats, on peut faire certains petits compromis, mais on garde toujours notre ligne radicale, puis on va toujours, notre projet c'est toujours d'investir un bâtiment rapidement.
Puis en parlant d'investir un bâtiment, avez-vous des plans pour ce qui est, j'avais entendu parler que ça serait peut-être sur d'anciens terrains du CN?
Oui. Ben écoute, ça c'est une chose que là on n'a pas tellement parlé dans l'entrevue, c'est que Le projet du centre social aussi, au départ, là, ça vient d'une critique de l'aménagement urbain puis d'une critique de la logique du développement immobilier dans les métropoles, notamment la ville de Montréal. Le sud-ouest de Montréal, toute la partie sud-ouest de Montréal, qui est connue comme le bassin de l'industrialisation au Canada, blablabla, selon l'histoire officielle, c'est un lieu où il y avait énormément d'entreprises, il y avait des énormes terrains qui sont aujourd'hui vides, en redéveloppement, fortement contaminés la plupart du temps. Dans le sud-ouest, entre chez nous et le centre-ville de Montréal, là, ce qui se passe, c'est les condos qui poussent, c'est les anciennes usines transformées en lofts de luxe, les épiceries de luxe, les voitures de luxe qui apparaissent. Moi, je reste dans un quartier ouvrier entre le pont Champlain et le pont Victoria, ce qui veut dire que toute l'après-midi, les voitures qui sont jamais chez nous, c'est toutes des voitures de luxe qui s'en vont sur la rive sud. Et c'est ça qu'on vit à Pointe-Saint-Charles. Puis fait que le centre social, ça part d'une critique du développement urbain. Et là, tout le sud-ouest est en redéveloppement avec des énormes projets qui sont donnés à des promoteurs immobiliers. Okay. La ville est complètement complice, elle favorise les grands promoteurs qui construisent des condos, des centres d'achat, des stationnements. Et les terrains du CN, qui sont l'équivalent d'un tiers du territoire complet de Pointe-Saint-Charles, qui sont situés dans Pointe-Saint-Charles, c'est un terrain comme ça qui va être en redéveloppement. Là, en fait, depuis les années 2005, c'est entamé, mais ça s'enlise, là, c'est dans la vase, ça avance pas vite.
Donc la question que vous posez, c'est pourquoi eux et pas nous? Donc à ce niveau-là, vous pensez réinvestir, dans le fond, vous réapproprier votre quartier d'une certaine manière?
Oui, ben c'est exactement ça, parce que bon, les terrains du CN, hein, il faut dire une chose, c'est 3,5 millions de pieds carrés. Ça veut pas dire grand-chose, là, mais c'est vraiment plusieurs terrains de football, OK? Et ça a été vendu 1 $. C'est je dis bien une pièce là, canadienne. T'sais.
Ah oui.
Bon, c'est un terrain fortement contaminé. Il y a des bâtiments qui sont jugés historiques par certaines organisations patrimoniales. Et ça va être développé en condo. C'est ça le projet, t'sais. Alors que les gens du quartier, comment je pourrais dire, la concertation communautaire dans Pointe-Saint-Charles, qui est regroupée autour d'une organisation qui s'appelle la table de concertation Action Gardien, ces gens-là ont entamé une consultation publique dans le quartier. Ça fait 2 ans, ou même plus que ça, fait 3 ans que ça dure, en fait. Et toute cette procédure-là de démocratie, je pourrais dire participative, avec les limites que ça peut avoir, là, mais c'est quand même une très, très bonne démarche de consultation et de participation des citoyens dans la définition de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces terrains du CN-là qui sont tellement énormes et qui sont dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Les rues sont en face des tracts, les rues sont en face des ateliers. Les maisons, il y a des gens qui ont leur cours, c'est l'atelier du CN, c'est-à-dire une bâtisse énorme où il y a un train qui peut rentrer dedans. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et il y a une démarche qui est entreprise, il y a un plan qui a été mis sur pied, et le centre social s'inscrit dans ce plan-là. On est un des acteurs qui propose quelque chose pour les terrains du CN. C'est un centre social autogéré par les gens de la place. Et on dit que si le propriétaire a payé une pièce pour ces terrains-là, nous, on ne devrait pas payer pour récupérer des bâtiments qui ont été construits, en fait, par la classe ouvrière montréalaise dans les années fin du 19e siècle jusqu'au milieu et à la fin, plutôt, des années 80. Donc, il faut se réapproprier ces terrains-là et c'est dans cette démarche-là qu'on s'inscrit. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec les organisations communautaires de la place. On n'est pas tout seul à revendiquer les terrains du CN. C'est un peu ça que je veux dire, tu sais.
Oui. En tout cas, déjà qu'une consultation, ça fait changement des urnes habituelles. On peut pas dire que c'est, on peut dire que c'est déjà une différence importante.
Oui, puis c'est beaucoup plus qu'une consultation. Je dis une consultation, okay. Mais c'est vraiment une opération populaire d'aménagement qu'on appelle, où les citoyens, dans plusieurs démarches, ça s'est échelonné sur 2 ans, les gens ont carrément conçu un plan d'aménagement du quartier. C'est quand même c'est une job d'urbanisme, une job architectural, une job de gens qui experts de la planification urbaine. Mais les gens du quartier l'ont fait eux-mêmes à l'aide de spécialistes. C'est vraiment une belle consultation, une belle façon de faire. C'est à peu près unique, là. Ça commence à se répandre ailleurs, mais c'est à peu près unique dans le milieu communautaire à Montréal.
C'est quoi les attentes que vous avez par rapport aux débouchés de cette consultation-là?
Ben, il y a déjà au niveau politique, il y a une certaine réponse. C'est quand même assez intéressant. La Ville de Montréal a une politique de consultation publique, une politique officielle, qui dit que lorsqu'un promoteur a un projet concret et que ce projet a certaines caractéristiques, il doit faire une consultation publique. Où là, les citoyens sont appelés à se prononcer sur le projet, sur comment on pourrait l'améliorer. Pas l'éliminer, pas faire autre chose, juste l'améliorer. Il était supposé faire ça avec les terrains du CN au moment où il y aurait un projet. Sauf que vous vous rappelez peut-être qu'en 2005, il y avait un projet qui était celui du déménagement du casino de Montréal vers les terrains du CN. C'était ça le projet. C'est dans ce contexte-là que le propriétaire actuel a payé une pièce pour acheter le terrain. Donc, le projet du déménagement du casino, vous rappelez, c'est tombé, ça a été complètement abandonné, et là, c'est mort pour l'instant. Donc, il n'y a pas eu de consultation, et le développement a été arrêté. Et là, il y a eu la période de consultation populaire, de conception populaire d'un aménagement que je vous ai raconté. Et ça, ça a été présenté à l'arrondissement de Montréal, ça a été présenté aux promoteurs immobiliers qui n'ont rien fait à date. Et là, une nouveauté qui est une innovation à Montréal, c'est qu'il va y avoir sur les terrains du CN une consultation publique d'un nouveau genre, c'est-à-dire que le promoteur n'a rien à présenter et les citoyens et les groupes et la population vont être consultés pour savoir qu'est-ce qu'eux ont à proposer.
Qui va être intégré par la suite à la proposition ou...
Bien là, après ça, les suites de la proposition, ça reste entre les mains de la Ville de Montréal, du conseil exécutif, bon, et tout ça. Là, ça sort des mains de la population. C'est ça le problème, tu sais. Mais c'est quand même un renversement de la logique. Alors que d'habitude, on consulte lorsqu'il y a un projet. Là, on consulte, mais il n'y a pas de projet, puis on veut savoir ce que les gens veulent pour ces terrains-là. Donc ça, c'est une première victoire pour, je dirais, le milieu communautaire autour. On va voir ce que ça va donner. Le centre social va s'inscrire là-dedans, on va aller faire notre petit tour, même si on est des anarchistes puis qu'on va pas demander qu'on nous donne un bâtiment, on va quand même aller aux endroits où on nous permet de s'exprimer puis de dire il y a du monde qui réclame la récupération des terrains au nom de l'intérêt public des gens du quartier. Et nous autres, on est là puis on va y aller sur le terrain parce qu'on considère que ça appartient aux gens qui habitent autour et non pas à un promoteur étranger.
Ah ben super, ben merci Marco d'avoir expliqué si bien le projet. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les prochaines activités auxquelles on pourrait s'attendre de la part du CSA à Montréal?
Ouais, ben je n'ai parlé un peu rapidement tantôt. On a un party le 20 octobre avec des bands locaux. Ça va sortir sur notre site les annonces précises. On a des ateliers d'éducation populaire qui roulent à raison de un par à chaque deux semaines. Ça se passe au Carrefour d'éducation populaire. Et puis cet automne, on va sûrement organiser d'autres événements en lien justement avec le développement immobilier dans le sud-ouest, parce que là, juste à côté de chez nous, à Griffintown, il y a des avis d'expropriation qui sont envoyés aux petits propriétaires pour exproprier en faveur d'un très, très grand promoteur qui se situe entre vous autres et nous autres, là, qui se situe sur le coin de l'autoroute 30 et l'autoroute 10, donc entre Sherbrooke et Montréal. Et dans l'ouest du sud-ouest, ben, il y a le réaménagement d'une autoroute. Il y a encore là des petits propriétaires qui vont être expulsés, qui vont être mis à la rue. Donc, il y a des événements, il y a un réclame de ta rue qui s'organise dans ce coin-là. Il y a toutes sortes de choses qui vont bouger dans le sud-ouest d'automne.
Puis si on veut se maintenir informé, on va sur le site www.centresocialautogéré avec un seul 1. Un seul E à la fin de autogéré.org, c'est ça?
Exactement, www.centresocialautogéré.org. Il y a notre calendrier là-dessus, puis de la documentation aussi sur les autres squats ailleurs dans le monde et sur ce que nous, on fait.
En tout cas, on peut dire que dans votre quartier, les libertaires se bougent le cul. Là.
Bougent le cul, ouais, ben on essaie de réveiller un peu à patente, là. Hein? Il y a déjà eu, tu sais, c'est bon, c'est le quartier Pointe-Saint-Charles. Il y a déjà eu dans les années 70 un journal qui s'appelait The Boiling Point. Donc, on essaie d'atteindre le point d'ébullition pour faire péter la machine. On travaille fort, là. D'ailleurs, il y a de la place. Il y a des appartements à louer dans le sud-ouest pour les anarchistes, là, si ça leur tente. Là.
Ah, ben, on verra dans une couple d'années.
Ouais, c'est ça.
C'est cool. Ben, bonne fin de journée, Marco.
Merci, à la prochaine.
Ciao.